Quand on pense à une société complètement fracturée par une polarisation ethnique extrême, avec de la désinformation qui devient virale en un clin d'œil...
Ouais, le genre de rumeurs qui détruisent des réputations en 2 secondes.
Exactement. Et au milieu de tout ça, un individu qui se retrouve littéralement broyé entre 2 univers culturels en collision. Franchement, on pourrait croire au pitch d'un thriller politique qui vient de sortir.
C'est clair. Sauf que la réalité, c'est que ce décor, c'est celui d'un texte qui a presque 2000 ans.
C'est fou, quoi. Et c'est pour ça que notre exploration en profondeur d'aujourd'hui, et je trouve ça particulièrement captivant. On va plonger dans des sources historiques basées sur les notes du docteur Craig Kinner.
Tout à fait. Et on se concentre spécifiquement sur les chapitres 21 et 22 du Livre des Actes.
Voilà, le Livre des Actes.
C'est ça. Pour resituer un peu le contexte, c'est vraiment un texte fondateur du mouvement chrétien primitif, écrit au 1er siècle. L'auteur que la tradition identifie comme Luc, il raconte l'expansion de cette nouvelle foi, quoi.
Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer comment une figure majeure de l'histoire, l'apôtre Paul pour le coup, a réussi à naviguer à travers d'immenses divisions culturelles.
Oui, parce que derrière ce qui ressemble à un simple récit de voyage ou un texte juste théologique, on a une vraie poudrière politique.
C'est carrément ça. On va voir ce que cette crise de l'Antiquité, avec ses émeutes, ses manipulations linguistiques, a à nous dire sur mon propre préjugé et sur la façon dont on construit une communauté aujourd'hui.
Et le récit commence d'une façon assez classique pour l'époque, comme un carnet de voyage antique en Méditerranée, en fait.
Avec des escales bien précises, genre Kos, Rhodes... Tire.
Voilà, c'est ça. Et ce style de narration, il faut savoir que c'était hyper populaire chez les publics urbains et éduqués de l'Empire romain. Quand on citait ces noms, ça créait des images mentales directes.
Ah ouais, genre ça évoquait quoi pour eux?
Prends Tire, par exemple. Ça rappelait tout de suite l'histoire militaire d'Alexandre le Grand.
Ah oui, l'ingénierie et tout ça.
Exactement. Le public savait qu'Alexandre y avait fait un truc d'ingénierie dingue des siècles avant. Il avait carrément construit une immense rampe artificielle pour relier la ville qui était sur une île au continent, juste pour la conquérir.
Donc c'est un lieu qui symbolise un peu le triomphe sur l'impossible, quoi.
C'est tout à fait ça. Sauf que là, l'aspect fascinant du voyage de Paul, c'est pas du tout une conquête militaire. C'est une dynamique sociologique complètement inédite.
Ouais. Parce que partout où il s'arrête, à Tyr puis à Ptolémaïs, il trouve instantanément des gens pour les accueillir.
Et c'est là qu'entre en scène un observateur clé, le centurion romain Julius, qui est chargé d'escorter Paul.
Et Julius, il doit être complètement scotché par ce qu'il voit.
Ah mais carrément. Parce qu'il faut se rappeler comment fonctionnait le système logistique romain, surtout pour l'armée, ça reposait sur l'extraction.
La réquisition par la force, en gros.
Exactement. Les soldats avaient le droit d'exiger de la nourriture, des bêtes, un abri, souvent en intimidant les locaux. C'était un fardeau énorme pour les civils.
Donc, en tant qu'officier, Julius aurait dû faire ça à chaque étape du voyage.
Voilà. Sauf que là, la mécanique s'enraye. Ou plutôt, elle devient inutile.
Parce que Paul a déjà un réseau. C'est genre une application de couchsurfing antique hyper efficace, en fait.
C'est une super analogie. Les croyants locaux offrent l'hospitalité spontanément. Et le centurion, il découvre un mouvement multiethnique qui contourne complètement la chaîne d'approvisionnement violente de l'Empire.
C'est un peu un passeport invisible, quoi. Tu partages la même foi et boum, tu as le gîte et le couvert.
Et sans les préjugés habituels de l'époque, entre judéens et gréco-romains, Julius n'a pas besoin de sortir son glaive une seule fois pour avoir des rations.
C'est beau. Mais on va pas se mentir, ce réseau idyllique, il fonce tout droit vers une tempête.
Une très grosse tempête, oui.
Parce que Paul se dirige vers Jérusalem et curieusement, il voit le truc venir. Le texte insiste bien sur le fait qu'il est averti par l'Esprit à plusieurs reprises.
Ouais, il y a plusieurs figures prophétiques qui interviennent. D'abord, il y a les 4 filles de Philippe.
Qui prophétisent.
Exact. Et la quête est précise, passion vierge, donc de jeunes femmes non mariées. C'est pas juste un détail en l'air, c'est pour montrer l'accomplissement d'une vieille promesse biblique. L'inspiration divine toucherait aussi les jeunes et les femmes.
Une vraie démocratisation du sacré, quoi.
Totalement. Mais après, l'avertissement devient beaucoup plus viscéral, on va dire, avec un prophète nommé Agabus.
Alors, Agabus, sa méthode est, enfin pour nous aujourd'hui, elle est ultra théâtrale.
C'est très typique des prophètes de l'Ancien Testament. Ils ne font pas que parler, ils miment le message.
Il prend la ceinture de Paul, c'est ça?
Oui. Agabus prend la propre ceinture de Paul, il s'attache les mains et les pieds devant tout le monde et il dit « Voilà comment les dirigeants de Jérusalem liront l'homme à qui appartient cette ceinture. »
Ah ouais, impossible d'ignorer le message avec une mise en scène pareille. Mais du coup, ça soulève une énorme question.
Laquelle ?
Si des personnes reconnues inspirées lui disent de ne pas y aller et vont jusqu'à mimer son arrestation, pourquoi il y va quand même ? C'est de l'obstination, un complexe du martyr.
C'est vrai qu'on pourrait se dire ça. Mais en fait, ça illustre un paradoxe sur la perception. Les prophètes comme Magabus, ils avaient raison sur les faits.
Le danger était bien réel.
Oui, l'arrestation allait avoir lieu. Et par rattachement pour Paul, ils en ont conclu qu'il fallait fuir. Mais ils voyaient les choses sous l'angle de la survie.
Ils n'avaient pas toutes les pièces du puzzle.
C'est ça. Paul lui-même dit souvent « nous connaissons en partie ». Prends l'exemple de Jean-Baptiste.
Vas-y.
Jean-Baptiste s'attendait à ce que le Messie vienne baptiser de feu et juger la nation. Quand Jésus arrive et prêche la paix au lieu de tout brûler, Jean-Baptiste est complètement perdu. Il demande même s'il s'est trompé de gars.
Ah oui, il avait les bonnes données de base, mais il n'avait pas compris le processus.
Exactement. Paul face à Agabus. Il accepte la souffrance prédite parce qu'il comprend que c'est le moyen prévu pour l'amener à témoigner devant les hautes sphères de l'Empire.
Donc il marche délibérément dans le champ de mine et quand il arrive à Jérusalem, l'explosion ne vient même pas des Romains mais d'une rumeur virale, la fameuse fake news antique.
Oh oui, il rencontre Jacques, le leader local, et Jacques lui fait un état des lieux assez flippant. Il lui dit qu'il y a des dizaines de milliers de croyants d'origine judéenne à Jérusalem.
Des dizaines de milliers ? C'est énorme !
Pour te donner une idée, l'historien Flavius Joseph estimait qu'il n'y avait que 6000 pharisiens à la même époque. Donc là, on parle d'un mouvement de masse hyper puissant et très attaché à la loi de Moïse.
Et dans une foule pareille, une fausse rumeur s'apprend tout de suite.
Surtout celle-là. Le bruit court que Paul enseigne aux Juifs de la diaspora d'abandonner totalement la loi, d'arrêter de circoncire les enfants, bref, de tout rogner.
Alors que c'est faux.
Complètement faux. Les lettres de Paul montrent bien qu'il s'adapte à son public pour se faire tout à tous, mais il ne force jamais l'assimilation.
Ouais, il fait de la contextualisation culturelle.
L'analogie d'un missionnaire moderne est top pour ça. Imagine un missionnaire chinois qui part au Zimbabwe.
Ok, il va apprendre la langue, manger local.
Voilà, il s'adapte à la culture zimbabwéenne pour communiquer sans imposer la culture chinoise. Mais quand il rentre en Chine, il ne va pas obliger les Chinois à vivre comme au Zimbabwe.
C'est logique. Paul refusait d'imposer les lois juives aux non-juifs. Mais il n'a jamais dit aux juifs de naissance d'effacer leur identité.
Sauf que la nuance, c'est la première chose qui meurt dans un mouvement de foule.
C'est clair. Et du coup, Jacques propose un vrai coup de relations publiques pour calmer le jeu.
Un coup très risqué. Jacques dit à Paul de parrainer 4 hommes qui font un vœu de Naziréa dans le temple et de payer leur sacrifice.
Attends, le vœu de Naziréa, c'est pas juste brûler un peu d'encens si on crape aux goules ?
Ah non, pas du tout. C'est un engagement de purification extrême. Tu laisses pousser tes cheveux, tu ne bois aucun produit de la vigne.
Même pas un raisin sec.
Rien du tout. Et tu ne dois t'approcher d'aucun cadavre. À la fin, tu te raises la tête et tu offres des sacrifices très coûteux. Jacques demande à Paul de payer la facture pour ces 4 hommes.
Donc, politiquement parlant, on demande aux modérés de financer une démo de zèle orthodoxe pure et dure pour prouver sa loyauté. C'est une campagne de com à haut risque. Surtout que le temple d'Hérode, c'est pas vraiment un endroit neutre.
C'est littéralement l'architecture de la division.
Comment ça ?
Le temple était organisé en cours concentriques. L'immense cour extérieure était ouverte à tous. Mais pour aller plus loin, il fallait passer un muret en pierre, le sorgue, et sur ce muret, il y avait des panneaux en grec et en latin.
Des panneaux d'avertissement.
Des panneaux de menace, de mort. Il disait en gros que tout non-juif qui franchissait la barrière serait responsable de sa propre mort immédiate.
Genre zone militarisée avec tir à vue.
Et les Romains, qui d'habitude gardaient le monopole de la peine de mort, fermaient les yeux là-dessus pour maintenir la paix religieuse. C'est donc dans cette poudrière que ça dégénère.
Et l'étincelle vient de Juifs d'Éphèse, non ?
Oui. Ils ont sûrement déjà eu des embrouilles avec Paul avant. Ils le voient dans le temple et ils se mettent à hurler qu'il a fait entrer un non-juif, Trophime d'Éphèse, dans la zone interdite.
Alors qu'ils n'en ont aucune preuve.
C'est le biais de confirmation totale. Ils ont vu Paul avec Trophime en ville, donc ils extrapolent.
Exactement. Et là, c'est l'émeute. La foule s'empare de Paul, le traîne hors des cours intérieurs et, détail glaçant, il ferme immédiatement les lourdes portes en bronze du sanctuaire.
Pour ne pas que le sang de Paul profane les dalles sacrées, c'est ça ? C'est ça, leur priorité absolue, c'est la pureté rituelle, pas la vie humaine. Ils s'apprêtent à le lyncher, mais proprement, à l'extérieur.
C'est glaçant. Mais le bruit de l'émeute déclenche l'alarme des Romains.
Oui, le commandant romain de la forteresse Antonia, qui surplombe le temple, voit le chaos, rassemble ses troupes et descend en courant. Il arrache Paul à la foule juste à temps.
Mais le commandant, il est complètement perdu, non? Il pense avoir attrapé un terroriste.
Il demande si Paul est un prophète égyptien ou un leader des Sicaires.
Ah, les fameux Sicaires. Attends, ça me fait penser à un roman d'espionnage antique. C'était qui exactement?
C'était la menace asymétrique numéro un pour Rome. De vrais terroristes. Le nom vient de Sica, un petit poignard courbé.
Qu'ils cachaient sous leur manteau.
Oui. En plein pèlerinage, ils se mêlaient à la foule, poignardaient leurs cibles, souvent des aristocrates juifs pro-romains, et ensuite ils faisaient semblant d'être horrifiés et criaient au meurtre avec les autres pour s'échapper.
Machiavélique. Donc, le Romain voit la foule essayer de tuer Paul, il se dit logiquement « Ok, ça doit être l'ennemi public numéro un ».
Exactement. Paul est couvert de sang, suspecté de terrorisme, tenu par les légionnaires. Mais là, il va utiliser une arme inattendue pour geler la scène.
Le code switching. Il change de langue.
Il s'adresse au commandant, Claude Lysias, en grec.
Et pas n'importe quel grec, je crois.
Un grec parfait, avec un accent attique ou égéen très pur. Dans le monde antique, maîtriser cette langue à ce niveau-là, c'était la preuve d'une éducation classique hors de prix.
Le marqueur de classe sociale par excellence. Le commandant s'attendait à un fanatique de la rue et il entend un intellectuel de l'élite.
Le choc total. Ça dissipe tout de suite l'accusation de terrorisme. Lysias le laisse parler et Paul se tourne vers la foule. Mais il ne parle plus grec.
Il passe à l'araméen, la langue maternelle de la rue.
La foule se tait et Paul déballe son CV comme un avocat de génie. Né à Tars, éduqué à Jérusalem au pied de Gamaliel.
L'élite des pharisiens, Gamaliel, c'est pas rien.
C'est le sommet. En disant ça, Paul prouve qu'il connaît la loi bien mieux que ceux qui l'accusent de la violer. Il va jusqu'à rappeler son passé de persécuteur des chrétiens.
Il s'aligne sur leurs propres ailes religieux. C'est bruyant, mais ça finit par déraper.
Oui, quand il mentionne sa vision divine et qu'il lâche le mot fatal. Dieu l'envoie vers les gentils.
Les nations non-juives. Et là, boum! Le mur du préjugé ethnique refait surface.
L'émeute repart de plus belle. Ils jettent de la poussière en l'air, ils déchirent leurs vêtements.
Pour montrer qu'ils refusent de respirer le même air que lui. C'est intense. Et le commandant romain, qui n'a rien compris à l'araméen, y décide de passer à la méthode forte. L'interrogatoire à la romaine.
La coercitio.
Avec le flagrum, un fouet terrible avec des morceaux de plomb ou d'os. Ça pouvait mutiler ou tuer. Ils attachent Paul, et au moment où le centurion lève le bras...
Paul lâche sa bombe juridique.
Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain sans jugement?
La phrase qui paralyse tout le monde. Parce que torturer un citoyen romain non jugé, c'était un crime majeur pour un officier. Le centurion arrête tout et court voir le commandant. Lysias arrive, paniqué, et demande si c'est vrai. Et là, l'échange est incroyable sur le plan du statut social.
Ouais, Lysias avoue avoir acheté sa citoyenneté avec un énorme pot de vin.
Et Paul lui répond calmement. Moi, je l'ai donné sens.
Bam, la hiérarchie est pulvérisée. Le prisonnier en sang a un statut légal supérieur à l'officier qui tient la ville. C'est comme abattre une carte maîtresse au poker pour sauver sa vie.
En une heure, Paul a jonglé entre l'accent de l'élite grecque, la rhétorique araméenne et le bouclier juridique romain. Et l'auteur, Luc, insiste là-dessus pour faire son apologie.
Prouver que le mouvement n'est pas une rébellion contre l'Empire.
Exactement. Les Romains sont obligés de constater son innocence légale, un peu comme Pilate avec Jésus. Mais, et c'est là le plus important, le fond du problème reste ce mur de séparation.
Le fameux mur du Temple.
Oui. Plus tard, depuis sa prison, Paul écrira une lettre aux Éphésiens. Et il dira que Jésus a détruit le mur de séparation et d'hostilité entre les peuples. Ce n'était pas qu'une métaphore éthérée.
C'était le mur de pierre mortel du temple d'Hérode qui a failli le tuer.
C'est ça.
Quand on prend du recul sur tout ce qu'on vient de voir, le contraste est juste saisissant. On est parti d'un super réseau de solidarité qui déjouait la brutalité romaine pour plonger dans la rumeur virale et la ségrégation institutionnalisée. Et au final, on assiste à cette masterclass d'intelligence culturelle de Paul pour survivre à la fureur aveugle.
Ces textes, c'est vraiment un manuel de survie face à la polarisation de masse. Paul a risqué sa vie pour dire que le message divin transcendait les barrières ethniques.
Et ça nous amène à une vraie réflexion pour nous aujourd'hui. Bien sûr, l'architecture de nos villes n'a plus ses murs de pierre, avec des panneaux de mort. Mais quand on observe nos propres cercles professionnels, virtuels, communautaires, quels panneaux d'avertissement invisibles on continue de dresser ? Quels petits signaux linguistiques ou culturels on diffuse pour dire à l'autre qu'il n'a pas sa place au centre de notre espace?
C'est une sacrée question.
C'est sur cette réflexion qu'on va clôturer notre session. Merci d'avoir suivi cette plongée avec nous et à très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.